Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue pour un nouveau numéro de Zone de Contact présenté par Anthony Lefebvre. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. La Bolivie prend ses distances avec le dollar, la Russie qui réagit aux événements en cours au Niger et un nouveau pays occidental qui envoie par erreur des emails classifiés au Mali. Le président de la transition burkinabé a fait le déplacement en Russie pour le forum Russie-Afrique. À cette occasion, il nous a accordé une interview exclusive. La politique de l'Occident en Ukraine met en danger la sécurité de l'Afrique. L'ambassadeur russe en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso nous décryptera les menaces qui pèsent actuellement sur le continent africain. Le dollar perd encore un de ses fidèles en Amérique du Sud. La Bolivie a décidé de se passer du billet vert au profit du yuan pour son commerce extérieur. C'est le ministre bolivien de l'économie, Marcelo Montenegro, qui en a fait l'annonce lors d'une conférence de presse. Il a justifié cette décision par le fait que la Chine est actuellement le premier exportateur mondial. Selon lui, il est logique que Pékin soit payé dans sa devise pour ce qu'elle produit. En Bolivie, la banque publique Banco Union, le principal établissement financier du pays, permet depuis le début de l'année aux exportateurs et importateurs de négocier en rouble et en yuan. Le ministre bolivien a annoncé que la part des transactions en yuan a représenté 10% entre mai et juillet 2023. Pour rappel, d'autres pays d'Amérique du Sud ont fait le choix de la dédollarisation ces derniers mois. Le Brésil et l'Argentine ont ouvert une ligne de crédit pour leurs entreprises afin d'éviter le recours au dollar américain. Cela permet à Buenos Aires d'épargner ses réserves de change. Brasilia a signé avec Pékin un accord bilatéral afin de faciliter les échanges en yuan dans certains secteurs. Enfin, d'autres pays du continent comme le Venezuela voient à travers la dédollarisation un moyen de contourner les sanctions américaines qui les touchent. En mai dernier, le président vénézuélien Nicolas Maduro avait constaté que la dédollarisation du commerce s'accélère. La Russie appelle à la retenue au Niger. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, Moscou se prononce pour le prompt rétablissement de la loi dans le pays et pour la retenue de toutes les parties, à ce que cela ne provoque pas de victimes. Pour rappel, dans la soirée du 26 juillet, des militaires nigériens ont annoncé à la télévision nationale avoir renversé Mohamed Bazoum. Le général Abdourahmane Tiani s'est proclamé nouveau chef du pays. Se présentant comme le président du Conseil national de sauvegarde de la patrie, il a justifié le renversement de Mohamed Bazoum par la dégradation de la situation sécuritaire au Niger. Les événements survenus dans ce pays sahélien ont été sans surprise condamnés en Occident, qui n'accueille que les coups d'État dont il profite ou dont il a la charge, comme celui de l'Ukraine en 2014. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a déclaré que ce changement de pouvoir mettait en péril le partenariat entre les États-Unis et le Niger. Mais c'est la France qui s'est montrée particulièrement inquiète. Emmanuel Macron a qualifié le coup d'État au Niger d'illégitime et de dangereux. Le colonel-major Amadou Abdrahmane, un des militaires impliqués dans le coup d'État, a déjà fait savoir qu'il disposait des documents prouvant l'intention de la France d'intervenir militairement au Niger. Un nouveau pays occidental a envoyé des emails classés au Mali. Selon un média britannique, des responsables du ministère de la Défense du Royaume-Uni ont adressé par erreur des messages à Bamako. Ces correspondances étaient destinées aux renseignements militaires américains. Une erreur de nom de domaine est à l'origine de cette bourde. Le nom de domaine malien.ml a été confondu avec celui de la défense américaine.mil. Le porte-parole de la défense britannique a déclaré qu'une enquête a été ouverte après qu'un petit nombre d'emails ont été adressés par erreur. Il a ajouté que les informations partagées n'étaient pas très sensibles. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que ce type d'erreur se produit. Récemment, un média américain a révélé qu'environ 117 000 mails rédigés par des militaires des États-Unis ont été envoyés par erreur au Mali. Certains messages contenaient des données sensibles sur le personnel américain en service. Le porte-parole du Pentagone a réagi en déclarant qu'il était conscient du problème et qu'il prenait au sérieux toutes les divulgations non autorisées d'informations sur la sécurité. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à vous si vous venez de régler votre poste de radio sur le 99.5 FM. De nombreux chefs d'État africains ont fait le déplacement à Saint-Pétersbourg à l'occasion du sommet Russie-Afrique. Parmi eux, il y avait notamment le président des Comores, par ailleurs chef de l'Union africaine, Azali Assoumani, le président sud-africain Cyril Ramaphosa ou encore le président de la transition malienne, Assimi Goïta. Le président burkinabé de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, était également présent dans la Venise du Nord. Il a notamment pu s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine pour aborder de nombreux dossiers, dont celui de la coopération militaire avec la Russie. Ibrahim Traoré a également donné une interview exclusive à Spoutnik Afrique dans laquelle il a fait le point sur de nombreux dossiers nationaux et internationaux. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
Bonjour Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre temps que vous avez accordé à Spoutnik Afrique pour cette interview à Saint-Pétersbourg. Dans une interview accordée quelques jours après votre prise de pouvoir, vous avez évoqué les relations avec la Russie, indiquant que Moscou était un partenaire pour le Burkina Faso. Où en sont aujourd'hui les relations entre nos deux pays et quelles sont leurs propriétés à votre avis?
D'accord, bonjour et merci donc pour l'opportunité de nous exprimer sur votre chaîne. Et nous l'avons dit sincèrement donc depuis ce jour. Et je pense que c'est la bonne relation qui nous amène actuellement ici pour honorer donc le forum Russie-Afrique, au cours duquel donc nous avons eu de très bons échanges et nous espérons donc pouvoir renforcer nos liens de coopération qui existent déjà, qui sont déjà très bien, parce que nous avons de très bons partenariats.
D'accord, merci beaucoup. Et pensez-vous que le continent africain a un rôle à jouer dans le règlement de la crise ukrainienne, car une initiative de quelques pays d'Afrique a déjà vu le jour?
Bien sûr, le continent africain, c'est l'un des grands continents aussi de ce monde. Et je pense que beaucoup d'États africains hier l'ont exprimé. Tout le monde souhaite que la guerre s'arrête. La guerre, ce n'est pas bien. Donc tout le monde souhaite que ça s'arrête, qu'on trouve des mécanismes pour l'arrêter, parce que on veut vivre en paix. Mais chacun aussi doit faire l'effort de son côté pour qu'on puisse faire un pas. Voilà.
Merci. Et quelle est votre lecture du conflit qui se déroule en Ukraine actuellement?
Lecture, moi je n'ai pas de lecture à faire là-bas parce que nous sommes aussi en conflit, nous. Nous sommes en guerre contre le terrorisme et on s'occupe plus de notre guerre. Ce qu'on déplore seulement, c'est que des armes destinées à l'Ukraine se retrouvent sur notre continent et continuent à activer le feu de notre guerre. C'est ce qu'on déplore. Sinon, le reste, on est en guerre aussi et je pense qu'on se concentre sur notre guerre.
Je vous remercie. Vous avez mentionné le problème avec les armes et des voix s'élèvent sur le continent africain pour dénoncer le danger que représente le trafic d'armes envoyé par l'Occident à l'Ukraine. Et ces armes se retrouvent souvent en Afrique. À quel point cela alimente l'insécurité sur le continent africain, à votre avis?
Mais je pense qu'il y a j'ai vu une fois sur des médias où le président ukrainien lui-même avait limogé une bonne partie de ses proches et tout pour des faits de corruption et sur les équipements militaires livrés. Ça veut dire que c'est pas contrôlé et ça se retrouve sur le continent. C'est un danger. Les terroristes, ils payent les équipements partout, surtout dans les zones de conflit parce qu'il y a des trafiquants d'armes. Et donc, ça ne fait qu'aggraver donc l'ampleur aussi de nos conflits sur place là-bas. Voilà pourquoi nous trouvons que c'est très dangereux de déverser de manière incontrôlée, parce que ça se retrouve aux mains des ennemis qui sont en train de tuer nos peuples.
D'accord, je vois, merci. Et les autorités burkinabées qualifient le secteur de la défense de priorité pour la coopération avec la Russie. Où en est aujourd'hui la coopération militaro-technique avec Moscou?
C'est la priorité parce que, comme je vous disais, nous sommes en guerre contre le terrorisme et donc, s'il y a une chose vraiment qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir discuter de certains aspects en termes d'équipement et de formation aussi, parce que c'est pas uniquement l'équipement et la formation. Aujourd'hui, ça va très bien parce que, Dieu merci, la Russie, c'est un pays qui ne refuse rien. En fait, tout ce qu'on veut acheter, la Russie accepte nous vendre parce que c'est pas le cas avec d'autres pays. Donc voilà pourquoi on dit la coopération militaire technique se porte très bien. Tous les équipements qu'on a souhaité acheter en Russie, c'est en bonne voie, il n'y a aucune restriction, on ne refuse pas de licence et c'est à bon port. La Russie est prête aussi à nous livrer des armes aussi à titre gratuit pour nous appuyer dans notre guerre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit.
Selon Moscou, la Russie et l'Afrique veulent créer des infrastructures qui ne seront pas contrôlées par l'Occident, y compris des infrastructures financières. Votre pays est-il intéressé à développer les paiements dans des monnaies alternatives et à réduire la part du dollar dans le commerce extérieur?
Non, mais tout ce qui est initiative allant dans ce sens, on est partant. Il n'y a pas de problème. Ce serait la bienvenue parce qu'on traite avec beaucoup d'États déjà et on en a parlé par rapport, par exemple, aux BRICS qui ont mis en place des banques qui nous ont approchés et tout. Ça sera très bien aussi de pouvoir développer ça. Et on espère que ça va se faire très vite pour pouvoir commercer de façon très libre avec la Russie.
Et l'alliance des BRICS, vous avez mentionné, prévoit d'ouvrir une représentation au Burkina Faso, effectivement. Et pourriez-vous nous en dire plus sur les projets de cette organisation qui sont prévus au Burkina?
Oui, ils nous ont approchés, on a accordé, et ils sont les bienvenus. Du moment que ce sont des investisseurs qui veulent investir dans certains domaines, on a nos cahiers de charges, qu'ils respectent nos clauses, et aussi, c'est une question financière, des banques qui peuvent nous prêter aussi à de très bons taux. Donc, ils sont les bienvenus quand même, parce que tout ce que nous souhaitons, c'est de faire notre guerre, mais aussi développer. Et tous les produits qu'ils ont amenés, ça va dans nos objectifs, c'est-à-dire, il s'agit de développer notre pays, transformer vraiment le Burkina Faso pour donner notre visage, en fait. Donc, ils sont les bienvenus.
Et comment voyez-vous l'interaction avec le groupe des BRICS, en général, entre le groupe des BRICS et le Burkina Faso?
Ça se passe déjà très bien. Je pense que même ici, les BRICS ont rencontré beaucoup de ministres burkinabés. On en a discuté au Burkina, mais ça s'est poursuivi ici. Et actuellement, ils poursuivent les discussions sur beaucoup de volets et ils veulent aller très vite. Voilà, je pense que dans le domaine de la santé même aussi, il y a de très bonnes perspectives. Donc, l'interaction est vraiment très bien. Voilà, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont vraiment intéressés par le Burkina Faso et c'est à travers les BRICS. Nous, on ne peut que s'en réjouir.
C'est bien, ça va. Merci beaucoup. Monsieur le Président, et souveraineté et multipolarité étaient parmi les sujets abordés au sommet. Comment voyez-vous le rôle de l'Afrique dans un nouveau monde multipolaire de pays souverains?
Il faut que le rôle de l'Afrique soit encore plus prépondérant dans ce monde, parce qu'on a tendance à négliger un peu le potentiel de l'Afrique, dû au fait que voilà, beaucoup de nations sont toujours à l'étape de pauvreté, voilà, de dépendance. Mais quand on parle de monde multipolaire, c'est justement l'Afrique veut avoir sa place. Il faut qu'on donne à l'Afrique la place qu'elle mérite parce que c'est quand même un grand continent. Plus d'un milliard et demi d'habitants, je pense que nous devons avoir une place plus importante dans le Conseil des Nations Unies et aussi être respecté aux yeux de tout le monde. Voilà pourquoi nous parlons de multipolarité, de la souveraineté, parce que, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous ne souhaitons plus être... on ne veut plus que les gens s'ingèrent dans nos affaires. Nous sommes assez matures pour comprendre, vivre en bonne symbiose avec nos peuples pour qu'on discute de qu'est-ce qui est bien pour nous et qu'est-ce qui n'est pas bien pour nous. Donc, on ne souhaite pas que les gens viennent s'ingérer et on aime aussi travailler de sorte à se prendre en charge, c'est-à-dire être autosuffisant. Donc, voilà un peu le concept qui nous guide. Et côté culturel aussi, on ne souhaite pas que les gens viennent nous imposer ce qui est contraire à nos cultures. Donc, on rejette ça catégoriquement. Et donc, ça fait que les idéologies de ce genre-là, ça converge un peu avec les idéologies russes qui restent attachées à leur culture, qui restent attachées à la souveraineté et tout. Ça fait qu'on s'entend très bien. Donc, c'est de ça qu'il s'agit.
Merci. Et s'exprimant au sommet, Vladimir Poutine a déclaré que Moscou allait fournir gratuitement des céréales aux pays africains, y compris au Burkina Faso. Mm-hmm. Et comment voyez-vous cette volonté et quelle est votre impression du discours du président russe en général?
C'est déjà très bien. Je disais que, certes, j'ai dit aux autres aux chefs d'État africains, c'est bien que le président Vladimir Poutine soit généreux pour donner des céréales à l'Afrique. C'est très bien. Mais ce serait souhaitable que nous puissions produire nous-mêmes. J'apprécie beaucoup parce que bien avant l'annonce, hein, pour le cas du Burkina, le président russe avait déjà envoyé des céréales. Je pense que ça doit être en route. Donc, c'est pas la première fois. Parce que lui, il est conscient que nous sommes en guerre, que nous avons des déplacés internes. Voilà, d'autres publient les chiffres, mais ils ne font rien. Mais lui, il agit. Donc, nous ne pouvons qu'apprécier ça. Et quand les céréales vont arriver, nous ferons tout pour que les populations sachent que ça vient de la Russie. Et c'est appréciable. Et on a discuté bien au-delà pour que la Russie puisse, voilà, nous aider maintenant à la production, matériel agricole et intrants, et pour qu'on puisse, voilà, être, voilà, indépendant sur ce volet-là. Donc, c'est bien apprécié. Je pense que il a très bien aborder le sujet en tout cas.
D'accord, merci beaucoup. Les autorités burkinabées ont suspendu RFI France 24, décision décrétée par Paris. Et ce alors que les médias russes, dont notre média Spoutnik, avaient été interdits en France. N'est-ce pas un deux poids, deux mesures qui se manifeste dans cette réaction de Paris et ces démarches hostiles visant les médias non mainstream? Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est pas uniquement seulement le côté média. Il y a du deux poids, deux mesures un peu partout. Voilà, les gens abordent la question donc en fonction des États. Mais comme vous l'avez dit, vous avez été suspendu là-bas. Pourquoi vous avez été suspendu? Donc, nous aussi, nous sommes en guerre et on ne va pas tolérer que des médias viennent essayer d'intoxiquer nos populations, essayer de manipuler, de faire la propagande subversive. On ne va pas accepter. Donc, c'est de plein droit qu'on suspend. Donc, même si demain, il y a d'autres médias qui parlent dans ceci, on va suspendre. Voilà, parce qu'eux, ils ont un objectif qui est contraire à ce que voilà, nous voulons comme réalité. Et ils ne partent pas sur le terrain. Ils s'assoient, ils imaginent des choses. Si vous avez suivi le pourquoi on a suspendu certains médias, c'est déplorable quand même. Voilà, des médias qui cherchent à confronter les peuples et attiser la guerre, on va pas s'entendre. Voilà, donc c'est à cause de ça qu'on a supprimé. Ils sont libres de protester, mais eux aussi, ils ont fermé des médias. Est-ce qu'on n'a pas les mêmes droits? Nous sommes tous des humains, non? On a les mêmes droits et je vois pas pourquoi ça peut ils peuvent décrier cela. C'est logique. Voilà.
Je vois. Merci beaucoup.
Merci.
Le Burkina Faso a dénoncé en mars un accord d'assistance militaire signé en 1961 avec la France. Et plus tôt, Ouagadougou avait obtenu le retrait de la force française SAPRE. Quel bilan pourriez-vous tirer de l'aide militaire française?
Vous avez dit un accord militaire 61, c'est quand même assez vieux. Donc, c'est depuis 61, c'est vrai qu'on dit l'indépendance, c'est 60, mais c'est toujours la colonisation. Hein. C'est des accords signés juste après l'indépendance. On a trouvé que ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité, il faut qu'on arrive à avancer tout seul. Voilà. Et concernant Barkhane, je pense qu'on a dit aux Français, on ne souhaite pas que des soldats français viennent mourir sur notre sol. Ils n'ont qu'à nous laisser, on va se battre en Burkinabé. Voilà, on est assez majeur, on est assez conscient de notre situation. Donc ça, c'est la première explication. Parce qu'ils disent que des soldats français meurent, voilà. Je souhaite qu'ils repartent chez eux, défendre leur mère patrie. Nous, on va défendre notre mère patrie. Deuxième chose, nous n'avons pas vu un facteur particulier, un apport particulier donc de la force. C'est quand ils bougeaient même que certains ont pu découvrir tout l'arsenal qu'il y avait en fait, en termes de blindés, en termes d'hélicoptères de combat, en termes de moyens de renseignement et tout. Mais nous ne pouvons pas avoir tout ça. Et puis les terroristes se baladent, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, aujourd'hui, nous, on arrive à détecter les colonnes terroristes et à les frapper. Donc, nous avons aussi des moyens capables de le faire. Et donc, c'était pas nécessaire. Il fallait qu'ils partent, c'est tout.
Je vois, merci beaucoup. Et en février, la CEDEAO a refusé de lever les restrictions imposées contre votre pays. Et jugez-vous cette décision légitime? Et comment pouvez-vous caractériser cet instrument que sont les sanctions et leur éventuelle efficacité?
Vous avez parlé tout de suite des deux poids, deux mesures. Nous aimons toujours dire le traitement à géométrie variable de nos problèmes. La CEDEAO nous sanctionne. Bon, et je pense qu'ils font des erreurs. Pourquoi on est dans une situation comme ça? C'est à ça qu'il faut réfléchir et puis soigner le mal. Ils ont sanctionné, nous sommes en guerre depuis là. Est-ce que la CEDEAO a une fois levé le pouce pour envoyer voilà, une cartouche à nos soldats pour qu'ils combattent? Ont-ils envoyé des troupes pour combattre le terrorisme? Rien. Et si c'est sanctionné, oui, ils sanctionnent. On ne sait pas d'où ils tirent leurs sanctions. Mais c'est des traitements comme ça, deux poids, deux mesures qui révoltent en fait. Nous ne pouvons pas concevoir ça. Et ce qui est encore plus déplorable lorsque les terroristes attaquent ou font quoi que ce soit, on ne voit pas de réaction de la CEDEAO. Mais lorsque les forces burkinabées font des offensives, souvent, ils font des communiqués allant dans tous les sens. C'est désolant. Aujourd'hui, nous regardons et entre-temps, ils ont essayé de... Il y a des communiqués que la CEDEAO a sortis pour essayer d'incriminer les burkinabés dans une histoire de stigmatisation et tout. Mais un pays voisin cherche des Burkinabés et tout. La CEDEAO n'a pas levé le seul pouce. C'est honteux. C'est, souvent, je me demande si eux-mêmes, ils font le feedback de leur réaction, en fait. Quand ils s'assoient, ils regardent toutes leurs déclarations et puis leur comportement vis-à-vis de, d'un peuple ou d'un autre, je pense que ça doit leur donner beaucoup de choses à réfléchir. Donc, nous, on va continuer d'avancer en toute dignité, voilà, toute responsabilité.
Merci pour votre réponse. Et le Burkina Faso a proposé en février la création d'une fédération avec le Mali. Et quels en sont les enjeux et quelles démarches ont été faites pour procéder à sa réalisation?
Bien sûr, nous avons lancé l'idée, et d'ailleurs qui n'est pas bien appréciée par certains de la CEDEAO. Voilà, vous avez dû voir les images dans certaines conférences où ils ne sont pas d'accord qu'on puisse fédérer. Et ben, il faut que les gens comprennent que en rang dispersé, ça sera difficile. On va se battre, mais il faut que l'Afrique arrive à s'unir. Et plus on s'unit, plus on est efficace. Nous, nous sommes en train d'évaluer actuellement beaucoup de choses avec le Mali, surtout sur le domaine économique. Sur le côté défense, déjà, on a des accords, hein, ça c'est déjà scellé. Les Maliens viennent chez nous, c'est vraiment, c'est la même armée. On fait tout ensemble, on s'entraîne ensemble. On combat ensemble, terrestre, aérien, tout se passe bien. Et voilà, donc le volet économique aussi, on est en train de réfléchir. On a beaucoup de flux d'échanges commerciaux. Comment renforcer, voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et voilà, on n'exclut pas qu'un État, notre État vienne fédérer avec nous. Donc le processus est en cours. Voilà, plus tôt ça va venir, mieux c'est. Donc s'il y a d'autres États qui sont intéressés, c'est sûr que on va aller vers la Guinée. Et s'il y a d'autres États intéressés, qu'on puisse s'unir. C'est ce que la jeunesse demande. Parce qu'il y a des choses qui se produisent d'un côté, qui se passent, d'autres recherches. Qu'on puisse interchanger, qu'on soit assez fort.
Et enfin, quelles sont vos impressions, Monsieur le Président, de la Russie et qu'appréciez-vous le plus dans nos relations bilatérales entre nos deux pays?
Il faut dire ce qu'on apprécie, c'est d'avoir le respect. Les Africains, en général, aujourd'hui, la jeunesse, n'arrive pas à concevoir le manque de respect, en fait, de certains États vis-à-vis de nos pays. Mais, en ce qui nous concerne, on n'a pas senti ce complexe-là. Voilà, en la Russie. Il y a le respect. Il y a la considération. On échange en paire, en fait. D'égal à égal. Ça, c'est déjà important, en fait. Mais, la Russie aussi, il faut retenir que la Russie, pendant la décolonisation, a joué un rôle important en Afrique. Donc la Russie est quand même un État qui anti-impérialiste, qui n'aime pas donc l'esclavage, la domination. Il ne s'ingère pas dans les affaires internes des États. Il trouve que chacun a ses majeurs pour avancer. Et la Russie soutient comme elle peut. On est en conflit, on veut des armes ou quoi que ce soit. Tant qu'ils peuvent, ils donnent. On est en conflit, on a des déplacés, une situation humanitaire. Ce qu'ils peuvent, ils donnent. Ça ne veut pas dire qu'en Russie, il n'y a pas le besoin. Mais pour l'instant, nous avons des besoins. Ils arrivent à satisfaire. Ils sont ouverts, donc ça fait que c'est cette partie qui est importante. Surtout le respect, on en a besoin. On en a besoin. Il ne faut pas qu'on continue de nous piétiner, en fait. Voilà, donc c'est très important.
C'était le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso en exclusivité pour Spoutnik Afrique. À notre micro, il a fait le point sur la coopération militaro-technique avec Moscou et apporté son analyse sur de nombreux dossiers internationaux. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je vous souhaite la bienvenue. L'ambassadeur russe au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, Alexei Saltykov, qui s'est également rendu à Saint-Pétersbourg, a qualifié de significative la présence d'Ibrahim Traoré au sommet. Selon lui, elle démontre que le partenariat entre Moscou et Ouagadougou est véritablement stratégique. La sécurité, non seulement militaire, mais aussi alimentaire, est un domaine important de la coopération bilatérale. La situation internationale fait peser des risques sur tout le continent africain. En Occident, la non-reconduction de l'accord céréalier a été critiquée et le spectre d'une famine en Afrique brandi. Pourtant, ce sont bien les politiques de sanctions anti-russes, dont l'exclusion de Moscou du système SWIFT, qui ont entraîné de nombreuses difficultés, notamment au niveau logistique. Et l'accord céréalier n'a pratiquement rien apporté aux pays dans le besoin. Quant à la politique de soutien occidental à l'Ukraine, le manque de contrôle sur les armes destinées à Kiev fait peser une menace sur la sécurité du continent africain. Pour rappel, en novembre 2022, l'ex-président nigérian Muhammadu Buhari avait attiré l'attention sur la nécessité de mieux protéger les frontières dans le bassin du lac Tchad. Il avait dénoncé le rôle joué par le conflit en Ukraine en tant que source de multiplication d'armes dans la région. Bien avant lui, en juin 2022, le directeur général d'Interpol, Jürgen Stock, avait exhorté les États à s'intéresser au traçage d'armes en provenance d'Ukraine. Au micro de Sputnik Afrique, l'ambassadeur russe au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, Alexei Saltykov, a apporté ses analyses sur ces problématiques actuelles pour le continent africain.
Bonjour monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui ici, le premier jour du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg.
Bonjour Yulia, merci beaucoup de cette possibilité qui m'est ainsi offerte. Je suis très content de me retrouver ici dans ce congrès hall, si je peux dire, dans l'Expo Center de Saint-Pétersbourg.
Monsieur l'ambassadeur, Vladimir Poutine a annoncé hier l'intention de Moscou de travailler avec l'Afrique pour assurer la sécurité alimentaire sur le continent. Qu'est-ce qui, à votre avis, a mené à ces problèmes en matière de sécurité alimentaire?
Cette question est vraiment très importante pour les pays africains parce que beaucoup d'entre eux dépendent des livraisons du blé, des engrais en provenance de la Russie. Donc, vous savez que avec les sanctions, la situation, les sanctions contre la Russie, la situation s'est aggravée. Mais les problèmes, pour la première fois, ont apparu, mais bien avant la situation autour de l'Ukraine, parce que il y a eu une politique erronée des pays occidentaux qui ont fait des erreurs dans les calculs macroéconomiques. Ça c'est la première constatation, si je peux dire. La deuxième, c'est que les pays qui imprime de l'argent, n'est-ce pas? On faisait les empreintes de l'argent sans se soucier de leur contrepoids en produits, en matière, etc., etc. Donc, c'était l'argent, comme on dit, bon marché, qui a été pompé dans les économies des pays dans le monde entier, ce qui a aussi aggravé cette situation. Mais, et comme j'ai dit au début, les sanctions contre la Russie qui ont mis beaucoup de difficultés en ce qui concerne la livraison des marchandises en provenance de notre pays, les questions de l'assurance, les questions de fret, les questions de transactions bancaires, tout ça a donné beaucoup d'impact négatif sur le commerce des blés et d'engrais.
D'accord, je vois, merci beaucoup. Et après la suspension de l'accord céréal, avez-vous discuté avec les autorités locales de la livraison de céréales d'engrais russes?
Nous essayons de discuter avec les autorités ivoiriennes et les autorités burkinabées un large éventail des questions de la coopération bilatérale. J'ai eu un entretien très détaillé, très enrichissant, je peux dire, avec le ministre de l'Agriculture de la République Côte d'Ivoire. J'ai eu aussi un entretien avec le ministre de l'Agriculture de Burkina Faso. Nos partenaires sont soucieux, bien sûr, de la situation qui s'est créée sur le marché des blés, des engrais. Et nous leur avons dit que c'est aussi la part des pays africains qui doivent aider la Russie dans le sens de parler à ses partenaires occidentaux pour les convaincre quand même d'avouer que leur politique est contraire aux intérêts des États africains. Voilà, donc on discute tout le temps ces sujets qui sont vraiment d'importance capitale.
Et compte tenu du fait que les avantages pour les pays africains de cet accord étaient minimes, un autre format de livraison existe-t-il, à votre avis? Qu'est-ce que vous en pensez?
Vous avez parfaitement raison. L'importance des livraisons dans le cadre de ce pacte de la mer Noire, oui, comme on l'appelle, qui a été signé et travaillé pendant presque un an. Donc l'impact pour les pays africains n'est pas considérable. Parce que les pays occidentaux, les pays européens en tirent des profits énormes. Ils achetaient du blé ukrainien et le revendaient à des autres pays et pas à des pays qui avaient besoin de ces marchandises, mais à des pays qui ont des richesses, qui peuvent se permettre d'acheter ces matières à leurs propres dépenses, à leurs propres gré. Voilà, et c'est un côté. Donc, la partie ukrainienne de cet accord a été bien respectée, et deuxième partie qui concernait les livraisons à partir de la Russie était bloquée. Et je dis au début que il y a les raisons des interdictions d'entrée des bateaux russes dans les ports étrangers. Il y a des problèmes d'assurance. Il y a les problèmes de blocus des transactions bancaires. Il n'y a pas de permission pour vendre des pièces de rechange pour la production de blé, des engrais, parce que les pays occidentaux considèrent ces marchandises comme marchandises à double emploi. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a les autres moyens de livraison? Bien sûr, il existe. Il faut chercher à établir. Ça, c'est ma vie personnelle. Il faut chercher à établir des livraisons directes entre les pays, peut-être entre la Russie et les pays africains, peut-être utiliser les plateformes, les hubs dans les pays amicaux, et aussi voir les transactions bancaires qui vont éviter les sanctions qui ont été instaurées vers la Russie.
Je vois, merci beaucoup. Et selon Maria Zakharova, la Russie et l'Afrique veulent créer des infrastructures qui ne seront pas contrôlées par l'Occident, y compris des infrastructures financières. Est-ce que des initiatives dans ce sens ont été discutées avec les autorités du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire?
Il m'est difficile de dire quelles sont les appréciations des autorités ivoirien et burkinabé à ce sujet, parce que je n'ai pas encore eu le temps d'approcher ces problèmes directement avec les autorités locales. À mon avis, si je prends le cas du Burkina Faso, les autorités burkinabé ont conscience à ce que les systèmes qui existent ne leur convient pas. Donc, Burkina Faso se trouve aussi sous des sanctions. Ils ne peuvent pas avoir des prêts, des crédits auprès des autorités des organisations sous-régionales, et ils en souffrent beaucoup. Donc, de ce point de vue, on peut affirmer que pour certains pays, ce système, pour nous aussi d'ailleurs, pour la Russie, on comprend bien, pour beaucoup de pays africains, le système actuel financier est périmé, c'est obsolète. Donc il faut chercher les autres moyens de transactions bancaires, il faut utiliser plus de monnaie locale. Et je sais que ce travail se développe de plus en plus. Bon, il y a les discussions, il y a les pourparlers, Mais je ne veux pas rentrer dans le vif du sujet parce que ça, c'est pas la diplomatie directe. Ça, c'est plutôt la diplomatie bancaire dans les domaines de haute technologie. Bon, mais à mon avis, il y a des bonnes perspectives là-dessus.
D'accord, je vois, je comprends. Merci. Et le chef du Parlement du Burkina Faso, Ousmane Bougouma, a qualifié le secteur de la défense de priorité pour la coopération avec la Russie. Où en est aujourd'hui la coopération militaro-technique avec Ouagadougou et de nouvelles livraisons de matériel militaire russe sont-elles prévues dans un proche avenir?
C'est pas seulement le président de l'Assemblée législative de transition qui parle de cet aspect de coopération entre la Russie et le Burkina Faso, c'est aussi le ministre des Armées, c'est bien sûr le président de la République qui sont conscients que la sécurité dans le pays, c'est la question pertinente, c'est le problème primordial à la solution duquel il faut attacher beaucoup d'efforts et s'appuyer sur des partenaires. Bon, la coopération militaro-technique avec le Burkina Faso et la Russie se développe pendant des années. Nous avons les accords de base, nous avons un accord de 2006 de coopération technique et militaire entre les deux pays. Bon, nous avons livré il y a des années beaucoup de matériel militaire qui est toujours en utilisation dans l'armée burkinabé. Nous continuons la formation des militaires burkinabé dans les établissements spéciaux de la Fédération de Russie. Et le nombre et le besoin en augmente d'année en année. J'étais déjà ici, je suis venu pour participer à ce sommet. J'ai quitté l'Afrique il y a deux semaines et demie de ça. Et à ce moment-là, les Burkinabés ont demandé encore notre aide en ce qui concerne la formation des militaires. Et il y a aussi le besoin énorme d'entraînement des forces spéciales pour lutter contre le terrorisme. Je sais que nous allons continuer nos discussions pour aboutir à des propositions concrètes et voir ce que nous pouvons proposer à la partie burkinabé.
D'accord, je vois. Peut-être ce sommet aussi va impacter dans ces discussions.
Je suis sûr et certain parce que si je ne me trompe pas, il y a les militaires, le ministre lui-même, je pense, des armées qui est dans la délégation. Et bien sûr, il va profiter de cette occasion pour aller, comment dirais-je, au fond de la question pour aboutir à des résultats. Oui.
D'accord. Et quel est le niveau actuel de coopération militaro-technique avec la Côte d'Ivoire?
La coopération avec la Côte d'Ivoire, c'est un sujet qui doit être discuté peut-être plus profondément entre les deux parties. Malheureusement, avec la pandémie de Covid et la formation du nouveau gouvernement, les discussions que nous avons eu lieu auparavant ont été mises en suspension, comment dire, juste. Et ces derniers temps, il n'y a pas eu de contact direct. Mais je sais que le matériel qui existait, surtout les hélicoptères, dans l'armée ivoirienne, ce matériel est très bien prisé par la partie ivoirienne. Et je pense que c'est la question du temps. C'est la question du temps. Bon, nos partenaires étudient nos propositions. Nous les invitons à participer à des manifestations, à des symposiums, des expositions, comme exposition armée, par exemple, qui est tenue chaque année. Il y a eu aussi une plateforme très importante qui était organisée chaque année à Abidjan. Elle s'appelait Shield Africa, mais c'est toujours le Covid. Malheureusement, on doit faire référence à cette période de notre vie. Bon, tout a été stoppé et d'après les derniers sondages que nous avons faits, il se peut que ce forum pourrait être déplacé de la Côte d'Ivoire dans un autre pays africain. Mais je n'ai pas de détails. Mais je sais que ce ne sera plus Abidjan qui sera un pays d'accueil. Mais si ça va être transféré dans un autre pays africain, bon, le résultat serait le même. Bon, mais ça donne... Et je sais que nos délégations de nos sociétés et compagnies militaires visitaient régulièrement cet événement pour proposer des matériels, des équipements à des pays africains.
Et vous avez mentionné le forum armé qui se passe en Russie. Cette année, en août, il va se tenir encore une fois. Vous savez peut-être si les autorités ivoiriennes ou burkinabées prévoient le visiter ou c'est pas encore clair?
C'est pas très clair parce que parfois les invitations se gèrent à travers les ambassades africaines ici à Moscou et on n'est pas du tout concerné par organiser le déplacement des délégations. J'ose dire que les Burkinabés vont participer s'ils reçoivent une telle invitation. Pour les Ivoiriens, c'est plutôt difficile de faire les pronostics. Bon, c'est pas un secret. Il y a eu trop de présence des pays occidentaux dans le domaine militaire. Bon, il y a les Américains, les Français qui développent cette coopération. Et pour l'instant, notre place, elle est un peu limitée.
D'accord, je vois. Merci. On verra en août, je crois. Des voix s'élèvent sur le continent africain pour dénoncer le danger que représente le trafic d'armes utilisé dans le conflit ukrainien. Ce problème de la contrebande d'armes en provenance d'Ukraine est-il pertinent pour le Burkina Faso?
Je crois que c'est le problème très aigu et le problème très pertinent pour n'importe quel pays. Parce que l'utilisation et la répartition des armes occidentaux qui sont livrées à l'Ukraine, il n'y a pas de réglementation là-dessus. Donc, les armes peuvent se trouver dans les mains des éléments de néofascistes, les éléments terroristes, dans les mains de dealers dans le domaine des armes. Donc, Tout est possible, tout est possible, et bien sûr que ça représente un danger additionnel pour le Burkina Faso qui fait face à une présence massive des djihadistes qui sont très développés, la présence qui est très visible dans certaines régions du pays. Bon, il faut comprendre que entre les pays de la zone du Sahel, les frontières sont poreuses et bon, le déplacement des armes et des éléments terroristes ne rencontre aucune difficulté. Et je pense que ça, c'est vraiment un problème pour le Burkina Faso.
D'accord, merci. Parlons un peu des BRICS. L'Alliance des BRICS prévoit d'ouvrir une représentation au Burkina Faso. Pourriez-vous nous en dire plus sur les projets de cette organisation au Burkina et quelles possibilités d'interaction cette représentation offrira-t-elle?
Oui, nous avons passé quelques jours à Ouagadougou avec la présidente de la société Alliance Stratégique des BRICS, Madame Zelensova, qui est venue présenter tout d'abord ses activités aux autorités burkinabées. Elle a été reçue par le président de la transition, son Excellence Ibrahim Traoré. Elle a eu le sens de travail très très acharné, très intense au ministère des Affaires étrangères et dans les autres. Les autres ministères ont été associés, disons que les séances de travail sont passées aux affaires étrangères et les autres ministères techniques étaient présents. Ils ont pu associer les ministères de la santé, de l'éducation, des transports, des travaux publics, des mines et géologie. Presque tous les départements de taille qui représentent un pilier de l'économie burkinabé. Et ils ont signé le mémorandum de compréhension entre le gouvernement burkinabé et l'Alliance des BRICS. Maintenant, il faut attendre, c'est Mme Zelensova qui a dit qu'il faut attendre à ce que la partie burkinabé décide quels sont les projets en priorité. Et à partir de ça, l'Alliance des BRICS va travailler pour attirer les investissements, pour chercher les compagnies qui pourront exécuter ces projets. Ce n'est que le début. Bon, l'office ou la représentation de l'Alliance des BRICS n'est pas encore établie, mais l'accord des Burkinabés a été obtenu. Et je pense que ça, c'est un bon signe pour renforcer la présence de l'Alliance des BRICS dans cette région.
D'accord, je vous remercie. Nous nous retrouvons avec vous à Saint-Pétersbourg, au sommet Russie-Afrique, qui a commencé son travail aujourd'hui. Et on sait que le président du Burkina Faso est aussi arrivé à Saint-Pétersbourg pour assister au sommet. Donc, qu'attendez-vous de cet événement dans le développement des liens de Moscou avec Abidjan et Ouagadougou?
Le deuxième forum, le deuxième sommet Russie-Afrique, c'est un événement important, un événement qui a été attendu, auquel nous avons employé en tant que ambassade avec les autres ambassades russes sur le continent, nous avons déployé beaucoup d'efforts pour arriver à des résultats concrets. Bon, la présence de son Excellence Ibrahim Traoré est très significative. Je reviens à quelques dernières déclarations et interviews de chef de l'État qui a dit qu'il considère la Russie comme le partenaire stratégique du Burkina Faso. Il a répété ça plusieurs fois. Et je pense que sa présence ici à Saint-Pétersbourg le prouve. Ça a une importance significative pour le développement des relations entre les deux pays. Et l'ambassade de Russie qui couvre l'ambassade de Russie à Abidjan, qui couvre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ne ménage pas d'efforts pour accélérer cette coopération bilatérale.
D'accord, je vous remercie. Et Vladimir Poutine a déclaré que la Russie avait l'intention de stimuler le commerce et les investissements dans les pays africains. À quel domaine vous paraissez les plus prometteurs pour développer les échanges avec Abidjan et Ouagadougou?
Je crois que tous les domaines de la coopération sont très profitables, tant pour les parties, la partie africaine, la partie burkinabé et la partie russe. Bon, je pense que nous devons tout d'abord miser sur nos compétences, sur notre savoir-faire, pour proposer à nos partenaires des services de haute qualité et à des prix moindres, à des prix qui battent la concurrence. Parce qu'il y a d'autres partenaires, n'est-ce pas, Monsieur le Président Burkina Faso, il a dit qu'il veut développer la coopération avec les nouveaux partenaires. Bon, la Russie fait partie de cette liste des partenaires nouveaux, si on peut dire. Bon, et Les domaines de coopération, ils sont nombreux. Bon, il faut peut-être la première chose qui vient à l'esprit, ça c'est les richesses, les minerais, que le sol burkinabé contient, mais c'est aussi les technologies qui vont aider les Burkinabés à établir les bases de l'industrie agroalimentaire, parce que il y a beaucoup de produits marchés qui sont produits dans ce pays, mais étant donné que les températures, le climat est assez dur, au bout de quelques jours, les produits deviennent périmés. C'est pourquoi ils cherchent à trouver les technologies de transformation de ces produits pour que ça puisse être proposé après à la population, bon, congelée ou dans les conserves, etc., etc. Bon, il y a beaucoup de potentiel dans le domaine de fabrication des cuirs, parce qu'il y a beaucoup d'attention qu'ils font à développer l'élevage. Et ils sont vraiment très forts dans la transformation des cuivres. Bon, il y a bien sûr le domaine de la santé. Ils ont besoin de technologies pour diminuer en première tête les évacuations médicales pour des maladies qui ne peuvent pas être traitées localement. Et ça pèse lourdement sur le budget national. C'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent aussi à développer le domaine de l'éducation. Et ils ont même créé une sorte de Skolkovo local où ils veulent vraiment s'appuyer sur les technologies dans le domaine, nouvelles technologies dans le domaine de l'éducation. Bon, ça c'est quelques domaines que j'ai cités, mais il y a bien sûr d'autres. Ils ont besoin de construire les routes, les chemins de fer. Bon, rétablir la liaison aérienne avec la Russie. Bon, beaucoup d'autres.
Et savez-vous s'il y a actuellement des négociations sur les projets d'investissement dans quelques domaines?
Je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a des négociations qui se déroulent. Il y a des hommes d'affaires qui voyagent les Burkinabés en Russie, ou même les Ivoiriens en Russie, les Russes qui viennent dans les pays africains. Mais maintenant, dans cette situation géopolitique très compliquée et parfois défavorable, surtout défavorable pour le business russe, on préfère ne pas dévoiler les discussions qui sont en cours. On préfère dire oui, il y a des négociations et on attend jusqu'à ce que ces négociations aboutissent à un résultat concret pour ne pas freiner, n'est-ce pas, et créer des problèmes à nos hommes d'affaires. Mais je vous assure qu'il y a des négociations. Bon, au Burkina Faso, d'ailleurs, il y a la société Norgold qui est présente depuis quelques années dans le domaine aurifère. C'est une société très importante du point de vue de taille de l'exploration de l'or. Cette société agit avec les compagnies, pas ensemble, je veux pas dire ça, mais elles sont présentes sur le marché à côté des compagnies canadiennes, australiennes et quelques compagnies locales. Mais c'est vraiment une coopération qui est très bénéfique, comme on dit maintenant, coopération gagnant-gagnant. C'est déjà un résultat concret. D'ailleurs, les Américains ont beaucoup fait de pression sur les autorités burkinabées à ce qu'ils cessent de coopérer avec notre compagnie.
D'accord, je vous remercie. Et l'éducation est aussi l'un des domaines où la Russie est prête à offrir ses services aux pays africains, on peut dire, sur un pied d'égalité. C'est ce qu'a dit Oleg Ozerov. Il y a 35 000 étudiants africains étudient dans les universités russes. Quels sont les projets pour développer la coopération dans ce domaine avec le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire?
La coopération dans le domaine de l'éducation, c'est la coopération phare, la coopération dominante dans les relations bilatérales. Bon, je prends l'exemple de Burkina Faso. Nous avons formé plus de 3000 spécialistes au cours des années de nos relations bilatérales. Au mois de juin, nous avons organisé le forum des anciens étudiants des universités russes et soviétiques à l'époque. C'était un forum très important qui a produit quelques idées maîtresses pour développer la coopération dans ce domaine. Ils m'ont dit même qu'ils vont présenter ça. Je ne sais pas si le ministre de l'Éducation est dans la délégation, mais peut-être ils ont dit qu'ils vont soumettre ces propositions à la partie burkinabé pour présenter ici au forum et avoir quelques, pas résultats, mais quand même quelques échos là-dessus. Nous continuons à octroyer les bourses, pas beaucoup. Il y a quelques raisons objectives, je ne vais pas aller dans les détails. Récemment, nous avons augmenté la quantité de bourses jusqu'à 10. Avant, c'était 5. Donc, il y a une augmentation de 2 fois. Et nous avons aussi proposé à étudier l'initiative d'une société Kaza de Tatarstan qui s'appelle Alabuga. L'initiative s'appelle Alabuga Education, Alabuga Start. Il s'agit de octroyer les bourses à des pays africains pour l'éducation professionnelle et technique. C'est très intéressant. Les Burkinabés nous ont assuré qu'ils vont s'atteler pour voir est-ce que c'est cette année qu'ils puissent envoyer les étudiants ou peut-être c'est l'année prochaine. C'est la même chose. On a aussi proposé ça à la Côte d'Ivoire. Tout le monde est intéressé, paraît-il, mais peut-être c'est peu de temps qui ont passé. On n'a pas de résultats concrets, mais on ne perd pas l'espoir que tôt ou tard on va y aboutir parce que la partie ivoirienne octroie beaucoup d'attention maintenant à l'éducation professionnelle et technique. Ils ont même déclaré cette année l'année de la jeunesse. Je pense que notre initiative rentre très très bien dans le cadre des efforts des autorités ivoiriennes. Et en ce qui concerne l'enseignement supérieur, on donne aux Ivoiriens sans bourse, tous sans bourse explorés, comme on dit, utilisés. Il y a aussi un nombre des étudiants qui vont faire leurs études à leurs propres frais. Bon, maintenant, nous essayons d'étudier les possibilités d'ouvrir des cours de la langue russe. Je pense que d'ici quelques temps, on pourrait voir si, bon, juste vers la fin de l'année, on va dire est-ce que ça marche, ça ne marche pas, est-ce qu'il y a l'intérêt, et qu'est-ce que nous allons en tirer, la partie ivoirienne et la partie russe. Mais je sais que ce sera très bien pour ceux qui vont faire leurs études en Russie. Donc comme ça, ils peuvent déjà commencer à apprendre les as, les débuts, le commencement de la langue russe dans leur pays.
Oui, je vois, voilà. Je vois. Merci beaucoup pour vos réponses, Monsieur Saltykov. Merci pour être aujourd'hui avec nous et partager votre vision, votre opinion. Ce 27 juillet, le premier jour du travail du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Merci beaucoup.
Je vous remercie beaucoup, Yulia. C'était très intéressant d'échanger avec vous. Et je suis très, très touché par l'intérêt que votre chaîne montre envers le développement des relations entre la Russie et les pays africains.
Merci.
Merci beaucoup.
C'était Alexei Saltykov, ambassadeur russe au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire pour Sputnik Afrique. À notre micro, il a apporté ses analyses sur les problématiques actuelles qui touchent le continent africain. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Il est temps de rendre l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.